n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France est maintenant sur RFI. C'est avec vous, Arnaud Benedetti. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et vous êtes également professeur associé à l'université Paris-Sorbonne. Alors ce soir, Dimanche politique aurait pu prendre pour titre celui d'une célèbre émission de télévision des années 80, émission politique, c'est l'heure de vérité. Car c'est bien l'heure de vérité pour le gouvernement de Michel Barnier. Tout va se jouer dans les prochaines heures, les 24 prochaines heures, à l'occasion du retour du projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'Assemblée. Le vote doit avoir lieu demain à 15h, sauf si le Premier ministre décide de faire passer son budget sans vote, c'est-à-dire par la force que lui donne l'article 49.3 de la Constitution. S'en suivrait une motion de censure, en tout cas le dépôt d'une motion de censure. Les oppositions sont contre ce budget, à gauche, comme à l'extrême droite. Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale, était catégorique ce midi sur France Inter.
On ne veut pas de ce budget qui est mauvais pour la France et on pense qu'il est possible d'avoir un autre budget. Le seul qui fait du chantage aujourd'hui, c'est même pas M. Barnier, c'est Bercy.
La censure n'est pas inéluctable, il suffit que Michel Barnier accepte de négocier, c'est ce qu'expliquait ce matin Marine Le Pen dans la tribune dimanche. Au demeurant, le gouvernement a multiplié les concessions, mais pour le RN, cela ne suffit pas, comme le disait Thomas Ménager, député du Loiret, porte-parole des députés RN, sur France 3 ce midi.
C'est tout ou rien, et donc nous l'appelons encore une fois à entendre, pas le Rassemblement National pour l'Assemblée Nationale, mais les 11 millions de Français qui sont derrière nous. Actuellement, oui, le Premier ministre a 100% de chances d'être censuré.
Alors ce soir, Marine Le Pen déclare à l'agence France Presse qu'elle considère que le gouvernement a mis fin à la discussion sur d'éventuelles modifications au budget de sécurité sociale. Mais il y a une heure, Michel Barnier faisait savoir qu'il reste ouvert au dialogue. Alors, Arnaud Benedetti, Marine Le Pen soumet Michel Barnier à un vrai supplice chinois. Hein. Rien n'indique ce soir donc qu'elle veuille l'épargner.
Bah pour l'instant, si on suit ces déclarations, clairement, le Rassemblement national voterait la censure. Bon, il reste jusqu'à demain 15h, vous l'avez rappelé, horaire du démarrage en fait, de la discussion sur le texte, sauf évidemment, on peut penser qu'il y aura un dépôt de 49.3, en l'occurrence, jusqu'à 15h, je veux dire, le suspense restera entier. Il restera entier jusqu'à 14h, c'est-à-dire il y a une réunion du groupe Rassemblement national à 14h demain qui devrait officialiser la décision du Rassemblement national. Est-ce qu'entre-temps, Michel Barnier, qui se déclare ouvert à la discussion, va faire un certain nombre de concessions au Rassemblement national? C'est toute l'interrogation du mouvement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a jamais été aussi près de l'adoption d'une motion de censure depuis peut-être 1962. Je rappelle que c'est la seule motion de censure qui a été adoptée sous la Ve République, mais c'était dans un autre temps, dans une autre époque, et c'était surtout sur un autre texte, la réforme constitutionnelle de l'élection du président de la République au suffrage universel direct.
Revenons aujourd'hui à cette semaine. Au début de semaine, il y avait un dialogue, puisque Marine Le Pen a rencontré Michel Barnier en tête-à-tête à l'hôtel de Matignon, puis tout a basculé, voilà quelques jours. Est-ce que cela aurait à voir avec les réquisitions très sévères du procureur dans le procès qui est intenté à Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du FN devenus RN ?
Alors vous savez, il y a toujours plusieurs facteurs dans une prise de décision. Il est clair que ce qu'on a noté et observé, c'est un changement de ton depuis les réquisitions prononcées par le ministère public, comme vous l'avez dit, lors de ce procès. C'est-à-dire un ton qui s'est durci vis-à-vis de Michel Barnier. Alors évidemment, les leaders du Rassemblement national décorrèlent les deux épisodes, c'est-à-dire le procès et leur position vis-à-vis de ce texte concernant le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Mais il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer aussi la position du Rassemblement national. Premier élément, c'est l'opinion publique, et notamment leur cœur électoral. Quand on regarde les études d'opinion, une majorité des électeurs du Rassemblement national est favorable à la censure. Quand on regarde également les études d'opinion, une majorité de Français, courte certes, est plutôt favorable à la censure également. Donc si vous voulez, ces deux éléments peuvent expliquer aussi d'une certaine manière la position du Rassemblement national, d'autant plus qu'il y a une autre étude d'opinion, c'est important de regarder toujours les tendances, montre qu'aujourd'hui, pour une majorité de Français, les premiers opposants ce ne sont plus le Rassemblement national comme ça l'était il y a encore quelques mois, mais plutôt le Nouveau Front Populaire et la France Insoumise. Donc c'est, j'allais dire, ces remontées d'opinion peuvent expliquer aussi d'une certaine façon la position qui est celle du Rassemblement national depuis quelques heures et depuis quelques jours.
Alors pour contrer les menaces de censure, le gouvernement invoque l'impasse dans laquelle la censure plongerait le pays. Dans Le Parisien, Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, prévient aujourd'hui, j'alerte sur la facture de la censure. Dans le JDD, Antoine Armand, ministre de l'économie, déclare mettre en péril le budget revient à cibler les Français. Didier Migaud, lui aussi, fait partie du gouvernement, il est garde des Sceaux, il était sur France Info ce matin.
La censure, pourquoi faire? Pour changer de gouvernement, l'équilibre au niveau de l'Assemblée nationale sera le même, avec le même bloc central qui a une majorité relative plus forte que les deux autres. Donc vous retrouvez la même situation.
Elisabeth Borne, ancienne Première ministre, aujourd'hui députée sur France 3 en fin de matinée.
Quel que soit l'avis qu'on peut avoir sur la méthode, quels que soient les désaccords qu'on peut avoir sur certains points du budget, on ne peut pas censurer le gouvernement au milieu d'un débat budgétaire.
Sur Europe 1, Manuel Bompard entend bien voter la censure du gouvernement, mais il tacle aussi le Rassemblement national.
Si nous avons ce projet de loi de finances de la sécurité sociale et ce projet de loi de finances de ce qu'on appelle le PLF, le budget de l'État, si nous les avons sur la table, c'est bien parce que Mme Le Pen a décidé de laisser M. Barnier s'installer. Que quand nous avons déposé une motion de censure au mois de septembre, pour empêcher que ce gouvernement puisse voir le jour, parce que nous savions à l'époque que les budgets qui allaient être proposés allaient impacter en particulier le pouvoir d'achat des Français, à ce moment-là, Mme Le Pen n'a pas censuré le gouvernement. Je dénonce quand même son hypocrisie. Quand nous avons eu le débat sur le projet de loi de finances, le Nouveau Front Populaire, la France Insoumise, fait voter un certain nombre d'amendements pour dire qu'il ne faut pas que l'effort qui est nécessaire pour réduire le déficit repose sur tout le monde, il doit reposer sur les plus riches et les grandes entreprises. Nous avons réussi à faire voter des amendements sur ce sujet. Nous avions 75 milliards de recettes nouvelles. À l'époque, Mme Le Pen s'est alliée avec les députés macronistes, et les députés macronistes et les députés du Rassemblement national ont rejeté notre budget.
Même si Alexis Corbière n'est plus, lui, à la France Insoumise, le député écologiste et social lançait cet appel sur BFM.
J'invite tous ceux qui veulent censurer et qui, Michel Barnier de voter. Donc, si les députés RN sont. On va voir s'ils sont dans cette logique ou pas. D'un certain point de vue, ça va être un moment de vérité pour eux. C'est le RN qui est en difficulté. La question que vous me posez, c'est est-ce qu'il est imaginable que je fasse un même vote si je dépose une motion de censure qu'avec le RN? Oui. Ah ben, s'il s'agit de dire non à moins 40 milliards dans les dépenses publiques, non à la suppression de 4000 postes d'enseignants, non à l'augmentation de l'ONDAM à l'hôpital public, enfin, on pourrait continuer la liste, non à les moins 6 millions dans la ville de Montreuil, et je pense à toutes les villes de France. Ouais, si le Rassemblement national fait un vote qui fait chuter cela, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas m'y opposer.
Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Marine Le Pen reste inflexible malgré les gestes d'ouverture du gouvernement. Taxe sur l'électricité annulée, engagement à réduire l'AME, annonce sur un débat sur la proportionnelle. Mais est-ce qu'elle ne risque pas gros, par exemple, fragiliser l'opération normalisation en plongeant la France dans un chaos politique et les électeurs, ses militants même, pourraient le lui reprocher?
Alors, vraisemblablement pas du côté de la base militante. La base militante est plutôt, encore une fois, et même une grande partie de son cœur électoral est plutôt favorable à la censure. Là où ça peut poser problème, si vous voulez, pour Marine Le Pen, c'est pas tellement dans son socle électoral, plutôt dans le socle électoral qu'elle essaye de conquérir à l'avenir. C'est-à-dire, vous savez, cette droite, qui est la droite républicaine pour une grande partie, qui peut partager parfois un certain nombre de constats et de diagnostics qui sont établis par le Rassemblement national et Marine Le Pen, mais qui a encore un doute sur la crédibilité de Marine Le Pen, notamment sur les questions qui sont les questions qu'on débat aujourd'hui à l'Assemblée, les questions budgétaires, économiques et sociales. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, ça peut d'une certaine manière rendre plus difficile l'exercice de crantage qu'elle essaye de mener vis-à-vis de cet électorat depuis maintenant, en tout cas, plusieurs années, voire en tout cas plutôt quelques mois. Donc ça peut poser problème. Après, sur le fond, j'allais dire, tout le monde est dans son couloir, quelque part, dans cette affaire. Le Nouveau Front Populaire, on les a entendus, avec entre autres M. Bompard et M. Corbière, qui, pour le coup, on voit bien du côté que, d'ailleurs, de M. Bompard, qu'il est un peu gêné. Et il sait très bien que, pour que la censure passe, il a besoin des voix du Rassemblement national, mais en même temps, il essaye de se différencier d'eux en dénonçant leur hypocrisie. M. Corbière, lui, dit de toute façon, qu'est-ce que vous voulez, je veux dire, dans ce cas-là, nous, on est d'accord, je veux dire, pour voter ensemble, en l'occurrence, même si sur le fond, je veux dire, on est en désaccord. Et du côté du gouvernement, on voit bien qu'aujourd'hui, on essaye d'agiter le fait que, le fait qu'une motion de censure soit adoptée entraînerait le pays dans un inconnu et dans une incertitude telle qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors, on sait ce qui va se passer institutionnellement. C'est-à-dire que le Premier ministre va remettre sa démission. Il y aura quand même un budget qui sera adopté en fin d'année avec un projet de loi de finances, qui sera un projet de loi de finances spéciale, qui reconduira le budget de l'année dernière. Ça, c'est évident. Mais le problème, c'est de savoir est-ce que ce budget est susceptible de rassurer les marchés, rassurer nos créanciers après le dérapage de la trajectoire budgétaire que nous avons connue.
C'est le chiffon rouge agité par Michel Barnier et ses ministres. Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Parmi les nombreuses questions qui agitent le monde politique, censure, pas censure, quel nouveau Premier ministre, pour quelle politique, etc., il y en a une autre qui circule de questions, celle de la démission du chef de l'État, ce qu'en pense LFI par la voix de son coordinateur national, Manuel Bompard.
Il n'y a pas que les dirigeants de la France Insoumise qui l'ont dit. J'ai vu M. Copé, dont on ne peut pas dire que ce soit un ami politique. J'ai vu M. De Courson dire exactement la même chose. J'ai observé d'ailleurs qu'il y a des sondages qui disent aujourd'hui que la majorité des Français, en cas de chute du gouvernement Barnier, pensent que c'est le président de la République qui doit partir, puisque M. Macron a manifestement choisi dans son mandat de faire la liste de tous les articles de la Constitution. Et il y a un article qui prévoit la possibilité de démettre, destituer ou... que le président de la République démissionne.
À l'opposé politique, le RN et Jean-Philippe Tanguy.
La Ve République, elle est très claire. Quand il y a une crise politique, premier outil, le référendum. Il refuse de l'utiliser. Deuxième option, la dissolution. Il l'a utilisé, ça a raté. La première chose, c'est la démission. Mais c'est la logique. Emmanuel Macron est le nœud des problèmes de la France, non pas pour sa personne, même si sa personne parfois peut aggraver mille de l'huile sur le feu, mais pour la politique qu'il a proposée au pays, elle s'est effondrée sur elle-même. Moi, je reviens à Valeo. La politique de réindustrialisation est un échec total.
Donc il doit démissionner pour sortir la France de l'impasse, c'est ça que vous êtes en train de dire ?
Mais s'ils sont incapables de faire un autre budget, il ne restera que cette option sur la table. D'ailleurs, les Français, j'ai vu, en ont eux-mêmes tiré la conclusion, puisqu'il y a un sondage où les gens favorables à la démission d'Emmanuel Macron en cas de censure sont supérieurs aux gens qui veulent même la censure. 63% des gens favorables à la démission d'Emmanuel Macron, c'est quand même considérable.
Aurélien de Vernois, du service politique de RFI. Les Insoumis souhaitent donc profiter de l'espace qui vient de s'ouvrir.
Oui, le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, a ainsi envoyé vendredi matin un courrier au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Son sujet, les modalités d'organisation d'une présidentielle anticipée. Celle-ci devrait se tenir dans les 20 à 35 jours après la démission du chef de l'État. Et cela poserait, selon les Insoumis, des problèmes pour la collecte des 500 parrainages nécessaires ou l'inscription sur les listes électorales. Du concret, donc, comme si l'hypothèse devenait inéluctable. Mais une autre question obsède déjà l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, prêt à candidater à nouveau. Qui pour l'affronter ?
Alors parlez-nous de ce nouveau scénario déjà esquissé par la direction insoumise.
Alors tenez-vous bien, LFI voit une démission d'Emmanuel Macron en mars prochain. Cela pourrait permettre à Marine Le Pen de se présenter, car son éventuelle condamnation dans le cadre de l'affaire des assistants du RN au Parlement européen ne sera annoncée que le 31 mars. Impossible pour les juges de bloquer une candidate en campagne, estiment les Insoumis, qui voient aussi Emmanuel Macron tenter un coup constitutionnel. Le chef de l'État, qui doit nommer plusieurs membres du Conseil constitutionnel en février, pourrait demander à pouvoir se représenter n'ayant pas achevé son mandat. Délirant, c'est aussi ce qu'on nous disait quand on parlait de présidentielle anticipée cet été, sourit un dirigeant insoumis.
Aurélien de Vernois, Arnaud Benedetti, vous y croyez ? C'est une option, cette démission du chef de l'État ?
Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est un sujet qui est aujourd'hui sur la table, clairement. Et il n'est pas seulement porté par la France insoumise. Et d'ailleurs, M. Bompard, je crois, dont vous avez reproduit l'interview, le dit. M. Copé, M. De Courson ont eux-mêmes mis ce sujet sur la table. Je rappelle quand même qu'il y a deux mois, M. Édouard Philippe, sans le dire évidemment, a quand même déclaré sa candidature à la présidentielle, comme si d'une certaine manière, lui aussi anticipait une possibilité d'une accélération de l'agenda électoral. La réalité, c'est que, inévitablement, si demain la censure était votée, compte tenu de ce qu'on sait du rapport de force à l'Assemblée nationale, compte tenu de ce qu'on sait des difficultés que le président de la République a eu à désigner un nouveau Premier ministre, les solutions pour le président de la République ne sont pas, en tout cas, immédiatement spontanées. Donc la question, si vous voulez, de sa responsabilité sera inévitablement posée, et elle est déjà posée par la plupart de ses opposants politiques. Je note que du côté du Rassemblement national, certes, on a M. Tanguy qui le dit explicitement, certes, on a M. Chenu qui en a plus ou moins lui aussi évoqué l'idée. Du côté de Marine Le Pen et de Bardella, pour l'instant, on n'en parle pas, comme si on faisait donner les chevaux légers du Rassemblement national pour infuser cette idée.
Question iconoclaste. Prenons le contre-pied de la démission du président de la République. Si la censure aboutissait finalement au plein pouvoir d'Emmanuel Macron,
parce l'article qu'il 16.
Il pourrait invoquer justement cet article 16 de la Constitution pour assurer la continuité de l'État.
J'étais en train d'y penser justement quand, je crois, M. Tanguy disait que le président de la République aimait utiliser tous les articles de la Constitution.
Absolument.
Il y a un article de la Constitution, en effet, que M. Tanguy ne cite pas, c'est l'article 16. C'est compliqué, parce qu'en fin de compte, de toute façon, il y a encore une fois une solution sur le plan technique et sur le plan parlementaire à ce que la France puisse se doter d'un budget. On a utilisé l'article 16 sous la Ve République, là aussi, dans des temps lointains. C'est le général de Gaulle, au moment de la guerre d'Algérie, qui utilise l'article 16. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une situation de ce que les juristes appellent les circonstances exceptionnelles? Je ne crois pas qu'on puisse le dire, d'autant plus qu'en effet, il y a toujours la possibilité d'essayer de former un nouveau gouvernement, ce qui sera difficile.
Revenons à présent sur ce qui s'est passé jeudi soir à l'Assemblée nationale. Le député Nicolas Turquois est monté dans les travées au cours d'une suspension de séance, se montrant menaçant envers un collègue socialiste avant que des huissiers n'interviennent. Cela est l'un des multiples incidents qui ont émaillé les débats sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ainsi, la vice-présidente de l'Assemblée, membre du parti Horizon, accuse le député Manuel Bompard de s'en être pris à elle.
Je suspends la séance. Je descends du perchoir et Manuel Bompard vient vers moi, m'interpelle et les yeux dans les yeux me dit à plusieurs reprises « tu vas le payer ». Tu le paieras, tu es complice et tu le paieras, y compris électoralement. C'est une intimidation. Voilà, c'est une mise sous pression insupportable.
La réponse du député LFI aujourd'hui sur Europe 1, ce matin.
Je vous confirme effectivement lui avoir dit que sa participation au blocage organisé par les macronistes pour empêcher l'Assemblée nationale de voter sur la proposition de loi que nous avons déposée pour abroger la réforme des retraites, je vous confirme lui avoir dit qu'elle devrait rendre des comptes d'un point de vue électoral. Bien évidemment que je n'ai parlé que de conséquences électorales.
Le chef du Parti socialiste se plaint également d'un climat de violence actuellement dans la vie politique française. Olivier Faure sur RTL.
Si vous allez sur le fil de mon propre compte Twitter, vous verrez l'amoncellement de hargnes, de haines, de menaces qui sont faites à mon endroit par des gens qui sont plutôt des gens de droite ou d'extrême droite. Et les macronistes ne se privent pas. Tous les débats sont publics. Parce que tout ce que je fais, je l'assume.
Arnaud Benedetti, diriez-vous que depuis l'arrivée de la France insoumise à l'Assemblée nationale, l'hystérie s'est installée comme mode opératoire, stratégie de bordélisation délibérée voulue par Jean-Luc Mélenchon? Ça continue?
Clairement, on voit bien que les débats sont extrêmement tendus à l'Assemblée nationale. Alors si on fait encore une fois l'histoire de l'Assemblée nationale, on trouvera des périodes où on a eu, il suffit de regarder les comptes rendus et les journaux officiels, où les débats étaient particulièrement compliqués et difficiles, sont remontés à 47 ou 48, où les députés communistes s'enchaînaient lorsque Jules Moque venait présenter ses positions en tant que ministre de l'Intérieur pour reprendre le contrôle à la suite des grèves insurrectionnelles. Mais on pourrait même trouver sous la 5e, si vous voulez, des moments qui ont été compliqués. Mais là, c'est vrai que quand même, depuis 2022, on voit bien qu'il y a une stratégie de conflictualisation poussée, assumée du côté de la France insoumise, qui considère qu'il y a quelque part vraisemblablement une marge pour exprimer la colère que la société française exprimerait dans d'autres sénats et dans d'autres circonstances et dans d'autres cercles. C'est une réalité. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, des deux extrêmes de l'hémicycle, on a des positions très différentes. On a une stratégie de conflictualité qui est assumée du côté du côté de la France insoumise, mais une stratégie de respectabilité du côté Rassemblement national qui fait tout pour se couler dans le moule des institutions. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit notamment encore plus depuis l'élection du mois de juillet dernier, des élections législatives, que cette stratégie de conflictualité, elle est montée d'un cran vraisemblablement à l'Assemblée nationale du fait qu'une partie de la gauche se sont frustrées de ne pas avoir pu, obtenir ce qu'elle réclamait, c'est-à-dire Matignon.
Merci pour ces analyses et commentaires. Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Et je signale que vous êtes l'auteur de « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir », un livre publié par les éditions du Cerf. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.